Les manettes à la baguette sur RCN, Johan Turpin.
Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale Geek. Qu'on le veuille ou non, notre culture populaire est fortement marquée par l'Asie depuis des décennies et des décennies. Du Japon en passant par la Chine ou l'Inde, ce plus grand continent de la Terre pèse de manière irréfutable sur l'histoire culturelle et se querelle à armes égales avec l'hégémonie américaine. Cette semaine, nous allons nous pencher sur ce que je pourrais d'ores et déjà appeler une première partie, nous pencher, disais-je, eh bien, sur la musique des productions nippones, chinoises ou d'inspiration asiatique. C'est à vrai dire une montagne que l'on affronte si l'on veut se frotter à ce thème. Manga, animé, films et autres morceaux médias d'envergure inondent notre marché et nos produits culturels de telle sorte qu'embrasser la totalité du sujet relève de l'impossible. Comme toujours, je vais vous proposer une sélection et je gage qu'elle ne devrait pas vous déplaire. Un film pour commencer, et je peux dire très bien commencer. Le dernier samouraï d'Edward Zick, sorti en 2003, est une adaptation très libre de la rébellion de Satsuma qui eut lieu en 1877 au Japon. Le personnage principal du film, incarné par Tom Cruise, est librement inspiré du français Jules Brunet, un officier de l'armée qui démissionna de son poste par fidélité envers le dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, qui avait précédemment passé un traité d'amitié avec Napoléon III. Ce film est en tout point une réussite, tant sur la narration de l'histoire, romancée certes, mais avec beaucoup de goût. Le casting est à couper le souffle et la musique est confiée à Hans Zimmer qui démontre dans cette réalisation qu'il peut s'éloigner un temps de ses ficelles habituelles pour s'approprier complètement et originalement tout un folklore, comme il le démontrera plus tard par exemple avec des pirates. Les deux extraits que nous allons entendre maintenant et qui s'appellent respectivement Spectre in the Fog et Taken, des spectres dans la brume puis enlevé, dépeint la vie du personnage principal au sein d'un village atypique qu'il découvre d'abord captif, puis ensuite libre. L'attaque de ce dernier et la manière dont son cœur et son âme vont finalement se tourner vers cette terre d'asile, et ce à jamais, eh bien nous allons l'entendre et on écoute ça tout de suite.
Thank you.
Jeux vidéo maintenant avec ce qui me semble être le plus emblématique des jeux d'inspiration asiatique avec le très poétique et esthétique Okami. Okami est un jeu développé par Clover Studio et édité par Capcom, sorti en 2006. Ce jeu veut dire littéralement « grande déesse » ou « loup ». C'est un jeu vidéo d'action-aventure qui narre l'aventure d'Amaterasu, déesse du soleil et de la lumière. Elle se verra réveillée par Sakuya, déesse de la flore, afin de rendre ses couleurs à un monde envahi par les ténèbres à la suite de la résurrection d'un puissant démon, le dragon octocéphale Yamata no Orochi. Notre loup évolue dans ce jeu, dans un univers onirique, dont le design graphique, faisant appel à la technique du cel-shading, est une véritable ode à l'estampe japonaise. À tel point que les techniques du loup sont des arts de dessin magiques que l'on exécute avec un pinceau dans le jeu. Très grand succès du monde vidéoludique, Okami a reçu les honneurs des joueurs et de la presse de manière unanime, marquant à jamais les annales du jeu vidéo. Sa partition n'est pas en reste évidemment, elle est confiée à Akari Kaida, compositrice que l'on pouvait entendre jusque-là dans Mega Man, Breath of Fire 3 ou encore Resident Evil premier du nom, ou même Street Fighter. Les codes les plus classiques de la culture asiatique SM, cette bande originale très enlevée. Shakuhachi, la flûte nippone par excellence, et Koto se font entendre sur des mélopées de cordes qui nous rappellent combien la culture japonaise peut se révéler poétique et riche. Nous allons écouter la musique de la plaine de Shinshu, que vos oreilles se tournent vers l'Orient. We'll be right back.
Les manettes à la baguette sur RCN.
Série maintenant avec Samouraï Champloo. Décidément, le thème du samouraï étant le plus représenté dans notre émission jusqu'ici. Samouraï Champloo est une série télévisée, donc, de 26 épisodes qui a démarré sa diffusion en 2004. Et on peut dire que cet animé aura marqué par l'originalité de son esthétique et la liberté de ton de son adaptation. En effet, la série mélange le hip-hop moderne avec le shambara, qui est un genre cinématographique et théâtral japonais de bataille de sabre. Il trouve son équivalent dans nos films de KPDP bien occidentaux. Poursuivant son originalité, l'histoire prend place dans une version fictive de l'ère Edo au Japon, où une fille s'entiche de deux individus bretteurs pour retrouver un samouraï mystérieux qui sent le tournesol. Côté musique, c'est la fine fleur de la scène hip-hop nippone et américaine de l'époque qui se rencontre pour illustrer les images avec le crew suivant. Nujabes, Shing 02, Fat John, Nimini, ainsi que Force of Nature et Tsushi. La musique de cet animé a marqué bon nombre d'entre nous à l'époque, notamment pour son générique et sa mise en contexte des combats. Pour l'heure, nous écouterons le très jazz World Without Words de Nujabes, parce qu'on ne manquait certainement pas de cool et de street credibility sous la période Edo, n'est-il pas ? We'll be right back. Retour aux jeux vidéo maintenant avec un classique de l'histoire chinoise. Dynasty Warrior, du développeur Omega Force, est une série de jeux vidéo qui a démarré en 1997 sur la quasi-totalité des consoles PlayStation ou Xbox et dont le dernier opus en date est sorti en 2018. Pour ce genre de jeu, on parle de hack and slash, mais on peut aussi évoquer le terme japonais de musou qui définit les jeux de guerre. En gros, un personnage vu à la troisième personne qui défait un grand nombre d'ennemis à l'écran. Le scénario est tiré d'un roman historique chinois, l'histoire des trois royaumes, qui se déroule entre 184 et 280 après Jésus-Christ, le royaume des Wei, le royaume des Shu, le royaume des Wu et le royaume du Jin s'affrontent pour la domination de la Chine. Chaque niveau reconstitue une des nombreuses batailles de l'époque des trois royaumes de Chine. Avec un contexte aussi épique, les choix musicaux se sont portés sur le hard rock vitaminé et orchestral, donnant à toutes les scènes de bataille un souffle grandiose et une dynamique qui nous fait traverser ces chroniques en nous coupant le souffle. Je citerai à la baguette de cette excellente bande originale Kenji Nakjo, Masako Otsuka, Masato Koike ou encore Sasaki Masayoshi et Yasuhiro Misawa, qui, non contents de se renouveler à chaque opus, maîtrisent tout à fait leur style et nous en jugerons avec le thème de Shin Sangoku Musou, nommé « Vent capricieux ». Mémoire d'une geisha est un drame romantique américain réalisé par Rob Marshall et sorti en 2005. C'est l'adaptation du roman américain Geisha d'Arthur Golden et il narre l'ascension et l'amour secret d'une jeune et pauvre fille d'un village de pêcheurs japonais en 1929 qui va devenir geisha au sacrifice et au prix d'un grand nombre d'éléments de sa vie, y compris son propre amour. Si la réalisation de ce film aurait dû revenir à Steven Spielberg, c'est finalement son ami Rob Marshall qui va s'en charger. Anecdote sur une situation bancale et qui jusqu'ici fait l'effet d'un petit scandale. Il faut savoir que les actrices qui jouèrent les geishas du film sont chinoises. Autant le Japon que la Chine ont eu du mal à l'accepter. Le long métrage a donc été boudé totalement au Japon et formellement censuré par les autorités chinoises. Mais devinez quoi ? C'est le moment John Williams de l'épisode et oui, vous l'attendiez, puisque c'est lui qui a spécifiquement demandé au réalisateur de travailler avec lui. On écoutera donc le titre final de la bande originale, Sayuri's Theme, écrit et dirigé par John Williams et interprété entre autres par Itzhak Perlman et Yo-Yo Ma, un violoniste et un violoncelliste à la renommée internationale et spectaculaire, jugeons plus tôt.
Thank you.
encore avec un autre film qui réunit des influences asiatiques et américaines, avec La Grande Muraille, film de monstre, mais pas que, sorti en 2016 et réalisé par Zhang Yimou, à qui l'on doit Héros, La Cité Interdite ou encore Le Secret des Poignards Volants. Ce film très inégal, qui a tenu à faire appel à une partie de casting outre-Atlantique en la personne de Matt Damon ou Willem Dafoe, traite de manière très fantastique des raisons qui fondèrent en partie la création de la Grande Muraille de Chine, défendue par l'ordre sans nom. À la baguette, en revanche, on retrouve l'excellent Ramin Djawadi, le père des musiques de Prison Break, Game of Thrones ou encore Iron Man. Et diable, voici un compositeur qui s'acquitte fort bien de la tâche et qui ajoute sa touche personnelle à l'ambiance grandiose et chinoise de l'histoire. Nous l'écouterons donc dans l'ouverture de la bande originale avec le titre Nameless Order ou L'Ordre sans nom, prêt à défendre la Grande Muraille. Comment vous parler de musique à l'image et de Japon sans évoquer Joe Hisaishi ? Il est avec Hayao Miyazaki le second responsable de la légende et du succès absolu que sont les films du studio Ghibli. À mon sens, l'une des plus japonaises et qui traite notamment des esprits, des valeurs ancestrales et du voyage initiatique, tout autant que du danger de la société moderne et pour la nature et les traditions des films, eh bien, c'est le voyage de Chihiro. Il aura été jusqu'en 2020 le plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais, ce long métrage recevant l'Oscar du meilleur film d'animation et l'Ours d'or du meilleur film en 2002. Joe Hisaishi, c'est un artisan, un orfèvre de la mélodie et de l'harmonie. Il est notamment capable d'écrire quelque chose de simple, nostalgique, avec un tel sens de l'arrangement que cela en devient tout de suite plus que pertinent, cela en devient parfait, au sens le plus strict de la manière dont un compositeur doit souligner l'histoire et l'action. Nous écouterons pour notre épisode One Summer Day, qui ouvre le voyage de Chihiro par l'immense Joe Hisaishi. Pour terminer, nous parlerons de la série de jeux vidéo Saga la plus chère à produire de toute l'histoire du jeu vidéo. Shenmue, RPG créé par Yu Suzuki qui est à l'origine du légendaire jeu de combat Virtua Fighter et qui voulait raconter l'histoire de l'un de ses protagonistes. Désireux de rendre son histoire riche, Yu Suzuki fit des recherches en Chine pour étoffer son projet. Entre-temps, la Sega Saturn coula et la Dreamcast prit son envol. Shenmue devait alors se fonder sur le système Free, ou Full Reactive Eyes Entertainment, un système où le joueur peut tout voir, tout regarder et pratiquement tout faire. Shenmue fait partie de ces jeux inachevés, trop ambitieux, mais tellement visionnaire et génial qu'il garde une partie de la ferveur de sa communauté. L'histoire, démarrée en 1999, compte jusqu'ici 11 chapitres et demeure toujours inachevée avec pas loin de 3 opus et 2 spin-offs. Sous la baguette de Ryuji Iushi, l'histoire de Ryo Azuki à la recherche de Landy, l'assassin de son père dans une Chine contemporaine des années 80, prend une saveur nostalgique toute particulière et s'inscrit dans les partitions qui me resteront longtemps à l'esprit. Bien que très synthétique, comme c'était l'usage à l'époque, le travail Yushi assume pleinement son esthétique asiatique chinoise, avec une manière japonaise de traiter les textures et l'écriture cependant. Nous écouterons le titre Shobu, tiré de Shenmue 3, sorti le 19 novembre 2019. Courage, Ryo Azuki! Voici qui clôt notre épisode sur les joyaux d'Asie. J'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous conseille fortement de jouer, de vous divertir, d'écouter, d'entendre et de faire tout cela, eh bien, à la fois.